tenter le coup. Il y a vraiment des trucs fantastiques. Mon moment préféré, c'est quand je fais déguster un cidre et puis que tout d'un coup, je vois des yeux qui s'écarquillent parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Souvent, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, d'ailleurs. Voilà, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail passionnant parce qu'on travaille avec des émotions et pas juste avec un produit liquide qui a des bulles. Vraiment, chaque cidre va transcrire des émotions différentes chez les personnes.
Poké de pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon le cidre ?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est perdu, c'est pas l'apéro.
Vous avez bu 2-3 coups de cidre et puis une autre bouteille de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi ?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens. Hello à tous, je suis ravie de pouvoir vous retrouver enfin après une saison de récolte des pommes 2022 tumultueuse. Ah, on les aime ces saisons qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, avec un temps incroyable. Automne-hiver, comme on l'aime. Bon, disons-le, on a eu quand même beaucoup de chance. Le soleil était au rendez-vous majoritairement. Et on a pu profiter du soleil à chaque déjeuner à midi à l'extérieur. Et oui, j'aime aussi avoir les mains dedans, comme on dit. Passons. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 14, et oui déjà, de Bouscule tes sens. Et je vous emmène à la rencontre de Renaud Michel, le fondateur-créateur de Cidrea, distributeur de cidre sur l'Orient. C'est un métier plus ou moins original, encore assez rare de nos jours sur les terres hexagonales, d'autant plus qu'il propose uniquement et exclusivement des cidres à la vente via une plateforme en ligne, dédiée aux particuliers tout comme aux professionnels de la restauration. Sa cible est claire, mettre du cidre de qualité sur des tables de restaurants et chez les caviste. J'ai eu la chance de l'accompagner lors du salon CPV du Club des professionnels du vin à Nantes, il y a peu. Et étrangement, c'était le seul et l'unique représentant des cidres et poirées. Il était très bien entouré de beaucoup de vignerons, d'agents du vin, également de marques de distributeurs, de spiritueux. Et nous avons pu également mettre en place un atelier de dégustation autour des cidres de glace, dégusté avec des bouchées gastronomiques que nous avions préparées en amont. Alors je vais vous laisser discuter avec lui et j'espère qu'il saura vous transmettre toute l'émotion qu'il a pu ressentir tout au long des rencontres qu'il a pu faire avec les producteurs ou les personnes qui entourent cet univers cidricole. Une belle écoute à vous et à très vite.
Breton.
Champagne breton.
C'est un cidre Guilvic. Donc la variété pomme, c'est la pomme Guilvic, originaire du Morbihan.
Pays d'Auray, d'accord, ok.
Voilà, donc là on est au Pays d'Auray, mais c'est vraiment, on en retrouve dans tout le Morbihan. En général, c'est un cidre un peu coup de cœur, quand on a goûté, très méconnu, y compris en Bretagne. Et une fois qu'on a goûté au cidre Guilvic, on se dit, ah ouais, finalement, ça c'est original. Alors ça, on a pas
c'est une conduite bio, la plupart des cidres.
La plupart. Certains sont pas bio, mais par jusqu'au boutiste en disant je peux pas être certifié parce que ça m'ennuie. Voilà. Mais un verger finalement a besoin de très peu de traitement, voire zéro. Mmh. Et rien que la conduite du verger en travaillant éventuellement avec de l'éco-pâturage ou.
Écosystème quoi.
Voilà.
Ça va Renaud, pas trop épuisé pour ce salon ?
Bah, c'était intéressant.
Au revoir.
Mais effectivement, c'est chouette de pouvoir découvrir des gens qui viennent d'univers différents, qui ont une culture différente, qui s'y connaissent un petit peu ou pas du tout en cidre, et de leur faire découvrir des choses chouettes.
Tu étais le seul représentant cidricole aujourd'hui présent. C'est ça. Parmi ce monde.
Ben aujourd'hui, on n'est pas nombreux à pouvoir proposer cette offre avec toute la diversité des cidres. Et je pense que, enfin, en tout cas, je crois qu'on a une vraie place pour permettre aux producteurs de se concentrer sur la qualité de leurs produits. Et on est là pour les accompagner et faire en sorte que les cidres retrouvent leur lettre de noblesse et se retrouvent à des endroits où on n'a pas l'habitude de les voir, malheureusement, chez des beaux cavistes, dans des bons restaurants, et proposer aux clients demain des accords qui vont les sortir un petit peu de l'ordinaire. Et c'est ça que j'aime sur ces salons-là, c'est qu'ils drainent le vin ou les spiritueux, nous drainent une clientèle qui ne demande qu'à découvrir ces choses-là et qui aujourd'hui ne trouve pas forcément face à elle des propositions de gens qui permettent d'avoir une vraie diversité et de raconter l'histoire de ces produits.
Ouais, donc finalement, tu leur sers ça sur un plateau d'or. Et comment toi, t'es arrivé dans cet univers cidricole? T'es né dedans aussi? T'es tombé dedans quand t'étais petit ou...
Pas du tout. Première vie dans la Marine nationale où j'étais un petit peu couteau suisse. J'aimais toucher à tout. Au départ, je suis mécanicien et je me suis spécialisé en logistique. Bah, à l'aube de mes 40 ans, j'avais vraiment envie de donner un sens différent à ma vie, de faire... travailler dans un univers qui me passionne un petit peu plus, qui n'était plus trop le cas dans mon précédent métier. J'ai découvert au gré de rencontres, de formations, cet univers cidricole qui m'a tout de suite passionné, que j'ai vraiment redécouvert. C'est pour ça qu'en général, je parle de découverte ou de redécouverte des cidres, parce que pendant mon enfance, j'ai goûté plein de cidres. Enfin, mon enfance, pas quand j'étais trop jeune, mais j'ai goûté plein de cidres bretons, parce que mes grands-parents étaient bretons. Et entre les deux, j'avais un peu oublié tout ce que c'était. Et en me reformant au cidre, j'ai pu découvrir une diversité qui avait été en grande partie renouvelée avec des jeunes producteurs, plein de passions, qui, comme moi, avaient une autre vie avant et qui ont envie de faire revivre ces pommes fermentées qui mettent tant d'effervescence dans nos esprits quand on les goûte, qui permettent de casser un petit peu les codes qu'on a aujourd'hui dans le monde des vins et spiritueux.
Et quand on se lance comme ça... novice finalement dans ce domaine de distributeur en cidre, spécialisé dans les cidres, parce que tu ne fais que des cidres. Quels sont les ponts que tu as à gravir?
D'abord, c'est rencontrer. La première chose, et toutes mes découvertes et tous les partenariats que je lis commencent par des rencontres. J'ai pas envie de m'embêter, de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. En général, je vais rencontrer les producteurs, j'échange avec eux, j'essaye de voir comment ils travaillent. Et puis après, on voit un petit peu comment on peut travailler, sur quels produits, quels sont leurs besoins aussi, parce qu'on est là pour les accompagner. Moi, comme je l'ai dit, mon premier métier, c'est de la logistique. Donc comment on fait pour qu'on leur permette de travailler plus sur leur exploitation et de moins se soucier du reste. Donc c'est la rencontre d'abord, après m'entourer, avec toi notamment, avec des gens qui, comme moi, sont passionnés par ces produits. Des échanges avec tous ces gens passionnés, avec les producteurs, pour mieux connaître leur façon de travailler, leurs produits, leur typicité, et ainsi de suite. Et puis après, face aux clients, là, il y a un gros travail, parce qu'il faut justement évangéliser un peu la planète. Et moi, ma terre de jeu, c'est la métropole, pour leur dire « tentez le coup ». Il y a vraiment des trucs fantastiques. Mon moment préféré, c'est quand je fais déguster un cidre et puis que tout d'un coup, je vois des yeux qui s'écarquillent parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Souvent, ils ne savaient pas à quoi s'attendre d'ailleurs. Voilà, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail passionnant parce qu'on travaille avec des émotions et pas juste avec un produit liquide qui a des bulles. Vraiment, chaque cidre va transcrire des émotions différentes chez les personnes.
C'est beau. Et est-ce que, justement, convaincre des clients à l'heure d'aujourd'hui, économiquement parlant, est-ce que tu arrives à te dire « j'ai choisi la bonne voie » Est-ce que ça te fait poser des questions aussi sur « est-ce que je continue ? » Est-ce que ça commence à prendre ? La mayonnaise prend ou pas ? Tu le sens ?
La mayonnaise prend, très clairement, mais il faut quand même un long travail pour que les clients qui n'y étaient pas préparés se projettent sur le prix de vente des bouteilles. Malheureusement, la plupart des gens, et c'est ce que m'ont dit plusieurs cavistes bretons que j'avais rencontrés avant de me lancer, ils avaient tendance à dire le cidre, les bretons les achètent au supermarché et ça coûte 4 euros. Oui, mais il y a d'autres choses à préventer et il faut vraiment travailler sur ça. Et donc la difficulté, c'est de se dire, les amener à être convaincus que une bouteille de cidre, ça ne vaut pas 4 euros. Ça en vaut plutôt 10. Pour le client final. Et c'est autour de ce prix-là qu'on commence vraiment à avoir des beaux produits. Mais le chemin est long pour accompagner les gens et leur dire oui, vous pouvez le vendre à ce prix-là. Certains ont fait le pari. J'ai des clients qui n'hésitent pas à mettre des cidres à 18 euros la bouteille. Et curieusement,
ils se disent en fait je les vends vachement bien. Et dès que les clients ont goûté, en général ils y reviennent parce qu'ils se disent ouais, c'est un truc nouveau, c'est léger en alcool, c'est sans gluten, c'est peu calorique, et ouais, ça me plaît, et c'est festif sans avoir tout de suite des degrés d'alcool fantastiques. Je pense qu'aujourd'hui, le plus gros frein, c'est le prix. Mais pour dépasser ça, il faut faire goûter.
Et tu travailles avec quel genre de clients ?
Alors moi, j'aime travailler avec les cavistes. Parce que, comme moi, ils ont à cœur de conseiller leurs clients, d'expliquer d'où ça vient, comment c'est fait. J'adore les cavistes, j'adore les épiceries. Les épiceries sont très friandes de ces produits-là, les épiceries fines, parce que justement, ça leur permet des fois de se distinguer du caviste du coin en proposant des choses différentes. Le but, c'est pas de se marcher sur les pieds entre voisins. Les fromageries, de plus en plus, qui sont très réceptifs au cidre. Beaucoup sont sensibles au fait que, effectivement, le cidre, ça va très bien avec le fromage. On travaille pour travailler avec des restaurateurs qui vraiment vont proposer des accords. On a quelques touches avec des restaurants étoilés notamment qui sont prêts à rajouter une carte des cidres, qui n'ont pas le temps de le faire et qui sont contents que finalement on les accompagne là-dessus et qu'on leur dise avec un poulpe grillé au barbecue, un cidre extra brut, ça peut être super chouette.
Ça reste toujours celui-là mon préféré pour l'instant.
Ah ouais, moi c'est rigolo, c'est vraiment celui que je préfère.
Non, moi c'est le Guy Vipro.
Ouais, moi celui-là il est vraiment très très bien. Et celui, le vin de pomme aussi, c'est vraiment intéressant.
Et vous êtes restaurateur du coup ? Vous êtes,
Moi je travaille au Willy.
Ouais. Je travaille au Caudalis, un restaurant gastronomique à Nantes.
Ok.
Ouais, voilà.
Il y a des cidres à la carte ou...
En fait, on n'a pas de cidre à la carte. En revanche, on en a dans la cave. Et du coup, ça nous arrive quand on fait, par exemple, l'année dernière au Nouvel An. On a fait un accord de cidre avec... c'était avec quoi qu'on a fait l'accord de cidre ? Avec le dessert. Donc ça nous arrive quand on a des événements spéciaux de faire des accords, mais on les a pas à la carte.
Qu'est-ce qu'on appelle cidre de dessert ?
Mais moi je suis normande, donc je tryhard un peu pour qu'ils nous mettent des cidres à la carte. Parce que c'est vachement bon et parce que ça va être plusieurs salons qu'on fait où il y a des gens qui produisent des choses qui sont intéressantes et avec des accords intéressants en fait.
Quelle est la plus grosse claque que tu t'es pris ?
Un positif ou un négatif ?
Les deux.
Chez un caviste qui, on était en pleine dégustation pendant ses horaires d'ouverture et rentre une cliente qui dit « Ce soir, mon mari veut manger des huîtres, qu'est-ce que je lui sers avec ça ?» Et donc on avait des bouteilles ouvertes, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Qu'est-ce que vous proposeriez ? Est-ce que vous avez quelque chose pour aller avec les huîtres de madame ?» Et donc moi j'ai tout de suite dit « Oui, j'ai ce qu'il faut, on a fait goûter un cidre » et elle a dit « Ouais, très bien, ça me convient bien ». J'avais deux bouteilles. La caviste, avant même que je lui ai fait un devis, en a vendu une. Je lui ai dit le prix, parce que forcément, on n'en avait pas encore parlé. Le lendemain, j'ai eu un appel de la même caviste qui me dit « Bah écoutez, le mari de madame est revenu, il en veut 12 bouteilles. » Et donc j'ai trouvé ça super chouette, parce que finalement, la cliente avait fait le travail du caviste, qui aurait peut-être eu plus de mal à se décider sur « Est-ce que je vais faire le pari ?» On était en Bretagne, dans une zone où il n'y a pas trop de cidriers, donc est-ce que je vais faire le pari de sortir des classiques qu'ont tous mes voisins ? Et la cliente a fait le choix pour elle. Donc ça, je trouve ça super chouette, parce que c'est la preuve qu'il y a un vrai truc à proposer. En négatif, on a malheureusement beaucoup de gens qui vont nous faire venir par curiosité, et puis qui derrière, même s'ils ont été séduits, se projettent pas sur les prix de vente, comme j'ai dit tout à l'heure, et vont pas faire le pari d'aller tester des choses différentes. Et donc c'est assez dommage parce qu'on leur fait goûter des beaux produits, on leur fait croiser les chemins de belles personnes qui font des beaux produits. Restant sur l'image traditionnelle du cidre, ils font pas le virage alors que le virage s'offre à eux. Et ça c'est pour nous assez fatigant et assez décevant parce qu'on se dit de tous les efforts qui ont été faits, en commençant par le pommier jusqu'au cidrier, en passant par... par nous, sont finalement peu considérés par nos clients.
Mais petit à petit, l'oiseau...
Ça va venir.
tu parlais tout à l'heure que tu étais dans une zone bretonne, donc de zone de production. Toi, ta zone de distribution à l'heure actuelle, ou tes projets, est-ce que tu as une zone particulière que tu aimerais toucher, ou ça touche vraiment toute la France ?
Alors,
Nous, on ne veut pas se fixer de limites. Pour l'instant, on cible plutôt les grosses villes, parce que justement, on revient au prix. On cherche des endroits où les gens sont prêts à se faire plaisir et ont plus peut-être l'habitude d'aller chez leur caviste pour acheter des vins. Donc on est plutôt sur une consommation urbaine. Maintenant, on ne se fixe pas de limites. J'ai des gens qui me contactent, qui sont en plein milieu de nulle part et qui m'ont trouvé soit par internet, soit par un de leurs copains qui a commandé des cidres sur notre site internet pour les particuliers et qui me disent bah, en fait ouais, on s'est dit ça pourrait être super bon et on y va. Donc vraiment toute la France. Après, pour l'instant, nos axes de distribution, ils sont plutôt axés grandes villes et périphérie des grandes villes. Mais encore une fois, pas de limite. Que ce soit pour l'e-commerce, pour les particuliers ou pour les pros, on distribue dans toute la métropole et bientôt, peut-être, en Europe.
Un scoop peut-être ?
On y travaille en tout cas, parce que y a une vraie curiosité, je pense, pour ces produits-là. Alors, je ne parle pas forcément de la partie anglo-saxonne, mais en allant plus vers l'est de l'Europe, on a une vraie appétence pour ces produits et on a des gens qui nous contactent et qui souhaiteraient en avoir.
Bon indicateur, c'est chouette d'entendre ça.
Ouais.
Et ta meilleure rencontre dans cet univers cidricole ?
Bah, c'est toi.
C'est chou.
Bon, on va finir là-dessus. Hein. quelqu'un que tu aimerais écouter sur ce podcast ?
Ah, c'est difficile parce que il y a plein de belles personnes. Je vais citer plusieurs noms. Moi, je pense qu'il y a Dominique Hutin qui est vraiment un des fers de lance du monde du cidre et qui a une visibilité qui sert à tout le monde, à tous les cidriers. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Yves Mao aussi de la cidrerie du Pays d'Auray. C'est lui qui m'a formé sur le cidre. Je vais rendre à César ce qui est à César. Je pense que c'est quelqu'un qui cultive un recul sur le cidre et qui est à l'écoute, en tout cas, des différentes mouvances qu'il peut y avoir. Et ça, c'est très chouette.
Eh ben, je te remercie. Je vais aller toquer à leur porte, si j'ai le temps.
Ah bah. Et si ils ont le temps.
Je te remercie.
Il n'y a pas de quoi.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est permis, c'est pas l'apéro.
Quand vous avez bu deux, trois coups de cidre et puis une autre bouteille de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi ?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.